La revue de presse internationale avec Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
On démarre avec cet extrait sonore qui n'a pas fini de secouer la presse américaine.
Oui, c'est un extrait d'un meeting de Donald Trump donné hier soir à Greenville dans l'État de Caroline du Nord. Le premier depuis que le président américain, je vous en parlais il y a deux jours, s'est lancé dans une série d'attaques clairement racistes contre quatre élus démocrates au Congrès. Il s'en prend cette fois spécifiquement à Ilhan Omar, née en Somalie, réfugiée aux États-Unis avec ses parents et cible depuis des mois d'une campagne de haine et de désinformation de la part du camp Trump.
Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Renvoyez-la dans son pays, c'est ça que chante la foule pendant que son président termine un monologue sur toutes les horreurs qu'il reproche à la jeune élue qui se trouve être une femme noire et portant le voile. Il a longtemps martelé qu'elle multiplie les sorties antisémites, qu'elle diabolise Israël, qu'elle trouve des excuses aux combattants de Daesh et qu'elle bombe le torse quand on lui parle d'Al-Qaïda. Autant d'accusations qui sont fausses, rappelle le Washington Post, des contre-vérités fabriquées à partir d'extraits d'interviews d'Ilhan Omar tronquées, manipulées pour en faire l'ennemi des États-Unis.
Oui, voilà, mais le résultat est là, Camille, ce cri entendu dans la foule, renvoyez-la dans son pays, c'est un slogan qui a tout pour devenir un gimmick de la prochaine campagne électorale.
Oui, c'est la crainte du Washington Post que ce « send her back » ne vienne remplacer le « lock her up » de la campagne de 2016, où la même foule criait qu'on l'enferme contre Hillary Clinton, là encore sur la base d'accusations montées de toutes pièces. Sauf que là, la campagne de réélection de Donald Trump pour 2020 ajoute le racisme et la xénophobie à la misogynie de base et ça marche, la séquence d'hier soir nous le montre, auprès d'un électorat conditionné à la haine depuis des mois par les fausses informations. Dans le News, un observateur quotidien de Caroline du Nord, où avait donc lieu le meeting d'hier soir, on rappelle tout de même le trouble qu'avait suscité Ilhan Omar, entre autres quand elle avait, en 2017, parlé de son pays d'origine, la Somalie. Elle avait rappelé dans une série de tweets que l'intervention américaine à Mogadiscio en 1993 pour chasser du pouvoir le chef de guerre Mohamed Farah Aidid avait fait des milliers de morts somaliens. Une manière de dire que l'interventionnisme des États-Unis à travers le monde peut aussi alimenter le ressentiment et grossir les rangs des organisations terroristes anti-occidentales. Pour Donald Trump et les siens, aller ainsi contre le discours patriotique centré sur les pertes de l'armée américaine et sa mission libératrice, tout cela fait d'Ilhan Omar donc une alliée des terroristes et une ennemie de la nation. L'élu démocrate se retrouve donc aujourd'hui au cœur d'une tempête de haine raciste soulevé par le président. Le site d'info The Hill cite la seule réaction pour le moment de la jeune femme. Et c'est une citation sur Twitter de la poétesse afro-américaine née en Caroline du Nord, Maya Angelou. « Vous pouvez me fusiller de vos mots, vous pouvez me lacérer de vos yeux, vous pouvez m'abattre avec votre haine, mais toujours comme l'air je m'élèverai. » Ça vous dira peut-être quelque chose, le chanteur folk américain Ben Harper en avait fait un gospel en 1994. «
You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 out of the shacks.
Voilà, Ben Harper sur les mots de Maya Angelou, cité donc par Ilhan Omar. C'était sur le premier album du chanteur intitulé « Bienvenue dans le monde cruel ». C'était il y a 25 ans.
On reste dans les kiosques américains, Camille, avec le New York Times qui a mené une enquête très intéressante sur l'incendie à Paris de Notre-Dame.
Et oui, une enquête particulièrement poussée, hein, particulièrement bien mise en valeur aussi, des textes, des images interactives, des vidéos et des plans de la cathédrale pour montrer les étapes du sinistre. Et ce qui en ressort, c'est que Notre-Dame est passée très près de s'effondrer complètement, beaucoup plus près en tout cas que ce que nous avions pensé jusque-là. Ça commence avec le récit détaillé et donc expliqué sur une carte 3D de ces dizaines de minutes après le déclenchement de l'alarme incendie où l'agent de sécurité qui connaissait mal le bâtiment et qui était en poste depuis 7h du matin a cherché à trouver où le feu s'était déclaré. Il a d'abord cherché dans la sacristie puis dans le presbytère avant de monter enfin les 300 marches qui mènent à la charpente et découvrir un feu déjà hors de contrôle. Le New York Times nous remet donc dans le compte à rebours de cette soirée parisienne. Il y a eu cette première heure d'hésitation coupable qui a rendu quasi impossible le travail des pompiers ensuite. Ce sentiment d'impuissance des soldats du feu qui a dominé la deuxième heure de l'incendie. Les 3e et 4e heures furent les plus cruciales, avec des pompiers envoyés littéralement au cœur des flammes. Une prise de risque immense et assumée. Le maire du 4e arrondissement expliquera au New York Times qu'à ce moment-là, nous avions pris conscience que ce qui était en jeu dépassait largement nos vies, que Notre-Dame pouvait être perdue à jamais. Le quotidien de New York nous livre le récit de la caporale-chef Myriam Schudzinski. Elle décrit l'enfer qu'elle et son équipe ont trouvé au cœur du brasier avant de devoir rebrousser chemin quand la flèche et une partie de la charpente se sont effondrées sous leurs pieds.
Et c'est d'ailleurs juste à ce moment-là qu'on est passé très près de l'effondrement, d'après le New York Times.
Oui, à ce moment-là, le scénario du pire est devenu le scénario le plus probable. Si la charpente qui retenait les cloches géantes dans la tour nord était détruite par le feu, alors la chute des cloches risquait de faire s'effondrer toute la tour. Avec elle, le reste de la cathédrale s'abattrait comme un château de cartes. L'enquête du New York Times décrit l'information passée aux officiels présents, dont le président de la République. Le sort de Notre-Dame se jouait dans les 20 prochaines minutes. L'idée d'intervenir par la tour sud a été trouvée par un sergent-chef des pompiers de 39 ans, nommé Rémi Lemaire. Les risques étaient énormes et les pompiers les ont pris, ces risques, pour finalement arriver à sauver Notre-Dame. Voilà donc ce qui s'est passé pour qu'à 23h30 ce soir-là, Emmanuel Macron puisse dire que le pire avait été évité de justesse. Alors certes, la plupart des informations et des témoignages du New York Times avaient déjà été diffusés dans la presse française, mais le récit interactif qu'en fait le journal américain vaut parce qu'il rassemble toutes les pièces du puzzle. Et comme à chaque fois, vous trouverez le lien pour vous y plonger comme moi à la page de la revue de presse sur franceculture.fr.
Sur laquelle nous invitons tous nos auditrices et nos auditeurs à se rendre évidemment. Merci à vous Camille Manière et à demain.